appels au SAMU en forte hausse, des urgences, des services d'urgence sans climatisation, tout comme des chambres d'ailleurs dans les hôpitaux. Dans un instant, nous serons en direct de l'hôpital d'Aulnay-sous-Bois, mais la ministre de la Santé prévoit des jours difficiles.
On est au début de l'augmentation du passage aux urgences. Je comprends cette question de nombre, donc je n'ai pas de chiffres. Ce que j'ai, c'est des retours de terrain, des retours de professionnels qui me disent qu'ils voient, oui, des 45-50 ans. Je ne sais pas vous dire si ces chiffres seront statistiquement consolidés. Ce qu'on s'est dit depuis le début de semaine, hein, c'est que vers la fin de la semaine, donc vous voyez bien, c'est à partir de dès aujourd'hui, demain et ce week-end, risque d'être compliqué.
Alors, prenons une illustration concrète, justement. À cause de la canicule, l'hôpital va connaître des moments difficiles, c'est ce que dit la ministre. Autant le vérifier tout de suite, et puis ensuite, on retrouvera l'ensemble de nos envoyés spéciaux, mais avec Antoine Forestier. Antoine, vous êtes à l'hôpital d'Aulnay-sous-Bois, dans un hôpital partiellement climatisé, donc on imagine les difficultés pour le personnel soignant et pour les patients.
Oui, c'est un centre hospitalier qui a été construit il y a plus de 70 ans. Il a depuis subi des rénovations. Il y a de nouveaux services et par exemple au service réanimation, il y a bien de la climatisation, mais c'est loin d'être le cas partout ailleurs. Il y a plus de 700 lits dans cet hôpital et de sources syndicales, eh bien, on nous indique que la majorité de ces chambres ne sont pas équipées ni de climatisation et de très peu de ventilateurs, ce qui fait rager les syndicats parce qu'ils disent qu'ils ont contacté la direction à ce sujet depuis plus d'un an et demi, bien avant ces vagues caniculaires, pour demander des comptes, pour demander ce qui allait être fait pour que les températures soient supportables. Et en fait, selon eux, rien n'a été fait, faute de moyens. Je vous propose d'écouter cette secrétaire générale de la CGT au sein de l'hôpital, Aline Charron. Elle est interrogée au micro de Thomas Loriot.
Alors la situation au sein de l'hôpital, elle est catastrophique. Très, très peu de climatiseurs. La direction n'est pas en mesure de nous dire combien de climatiseurs il y a sur l'établissement. Elle n'est pas en mesure de recenser où se trouvent ces climatiseurs. Ça fait déjà un an et demi qu'on demande où se trouvent ces climatiseurs, combien il y en a, il n'y a pas de réponse. On leur demande d'acheter en amont des climatiseurs, c'est pas acheté. Ils achètent quelques ventilateurs au compte-goutte, il y en a 50 qui viennent d'être commandés. Les trois quarts des services, il fait plus de 35 degrés dans les chambres. Les agents et les patients, du coup, n'ont pas de fontaine à eau, n'ont pas de bouteille d'eau, alors que les conditions sont pas correctes. Ils mettent des couvertures de survie sur les fenêtres. C'est les seules recommandations que nous avons de la direction aujourd'hui.
Nous avons contacté la direction de l'hôpital depuis 11h ce matin. Ils n'ont toujours pas répondu à notre demande d'interview pour répondre aux critiques des syndicats. Et preuve que la situation ne s'améliore pas du tout. Il fait 39 degrés actuellement ici à Aulnay-sous-Bois. Près de 35 degrés, vous l'avez entendu, à l'intérieur de certaines pièces de l'hôpital. Et ce matin, il y avait un examen oral pour des étudiants infirmiers. Selon une source syndicale, plus d'une vingtaine de ces étudiants ont été pris de malaise à cause de la chaleur. Ils ont été pris en charge par les pompiers et le SAMU de Seine-Saint-Denis.
Antoine Forestier, Thomas Loriot, en direct de l'hôpital d'Aulnay-sous-Bois pour BFM TV. Et puis on voit bien que là, pour les autorités sanitaires et pour la ministre de la Santé, il s'agit de mettre l'ensemble du dispositif à un niveau supérieur. C'est ce qu'on va voir avec Julien Migaud-Muller maintenant. C'est le niveau 3 du plan Orsan qui a été déclenché par le Premier ministre. Bonsoir Julien, de quoi s'agit-il ?
Alors le plan Orsan, déjà ça veut dire quoi ? Regardez, ça veut dire organisation de la réponse du système de santé en situation sanitaire exceptionnelle. Autrement dit, c'est le principal dispositif national de gestion des crises sanitaires et ça vise en fait à coordonner l'ensemble des acteurs du système de soins quand un événement exceptionnel menace de saturer les capacités de prise en charge. Le dispositif a été mis en place en 2016, il y a 10 ans donc, et c'est la première fois que ce plan Orsan dit EpiClim est déclenché au niveau national. Le premier niveau, on va le découvrir ensemble, c'est un niveau d'alerte et de réponse immédiate. Dès qu'il y a des premiers signaux de tension, eh bien, on active les premiers leviers. La mise en place déjà du PMI, la protection maternelle et infantile, le plan bleu qui concerne notamment les EHPAD ou encore une cellule de recensement et d'appui psychosocial. Le deuxième niveau, c'est celui qui a été activé avant-hier. Il correspond à une montée en puissance avec un renforcement de la coordination, un suivi des capacités hospitalières, une mobilisation également avec la médecine de ville et puis les déprogrammations d'opérations non urgentes, mais cela en dernier recours et évidemment localement.
Le troisième niveau, c'est celui qui a été déclenché aujourd'hui.
Oui, il permet de renforcer les effectifs hospitaliers, notamment grâce à la mobilisation de la réserve sanitaire. Il renforce également la coordination entre les hôpitaux, la médecine de ville, les cliniques et le secteur médico-social. Et puis, il adapte les activités hospitalières pour garantir la prise en charge des conséquences de la canicule. Par exemple, là encore, avec des déprogrammations un petit peu plus massives d'interventions non urgentes, là encore, lorsque c'est nécessaire. Et puis enfin, le niveau 4, c'est le niveau post-crise, à savoir un retour progressif à la normale, mais aussi le retour d'expérience. Autant dire que le niveau 3, celui qui a été activé aujourd'hui, c'est le niveau sanitaire le plus élevé.
Merci Julien Migaud-Müller pour ces précisions.
Marie Chantrey, on le voit, l'exécutif se mobilise. Alors du côté de la santé, on craint ce week-end des urgences qui seraient donc avec cette augmentation de la fréquentation. 4 fois plus d'arrêts cardiaques en 24 heures, a dit la ministre de la Santé. Emmanuel Macron également s'engage.
Oui, effectivement, lui qui était sur le départ pour Antibes, rejoindre la première ministre italienne, a fait un détour sans caméra, sans presse. BFM TV, comme les autres chaînes d'information, n'étaient pas conviés à un centre d'action communale à Vélizy-Vélacoublay. Et voilà ce qu'il dit à propos de la canicule. Une situation difficile, une situation de crise. C'est dur pour tout le monde, dit-il, appelant à être vigilant, à ne pas hésiter, dit Emmanuel Macron, à prendre des nouvelles de ses voisins. Clairement, du côté de l'exécutif, il y a une inquiétude et nous la partageons tous un peu face à cet épisode de chaleur qui dure très très longtemps, qui est sans doute amené à se répéter durant l'été. Nouvelle cellule de crise interministérielle également, sans le Premier ministre ce soir, mais uniquement au niveau des directeurs de cabinet, et possiblement que demain, ou en tout cas durant le week-end, le Premier ministre réunisse une nouvelle fois tous les ministres concernés par ces situations.
Eva Sas est avec nous, la députée écologiste et sociale de Paris. Une situation de crise, dit Emmanuel Macron, une crise qu'on n'a pas anticipée suffisamment ?
Non, pas du tout. Effectivement, c'est ce que j'ai fait remarquer mardi à l'Assemblée, c'est qu'on arrive dans cette canicule dans un état d'impréparation totale.
Mais comment l'expliquer, puisque les responsables politiques, vous en faites partie, mais d'autres, nous disent régulièrement, le réchauffement climatique est là, ça sera plus exceptionnel ces canicules. D'ailleurs, il y en a maintenant chaque année, maintenant deux depuis le début de l'année. Donc il faut s'y préparer. Mais pourquoi on s'y prépare pas ?
Toutes les données sont là. Je crois que la prise de conscience, elle est là. Ce qui manque, c'est très simple, c'est les moyens et la constance, j'ai envie de dire. Parce que par exemple, sur le bâti scolaire, il faut isoler thermiquement les écoles. En septembre 2023, Emmanuel Macron fait un grand plan d'annonce. L'année suivante, dans le fonds vert, on finance de l'ordre de 1000 rénovations thermiques d'écoles. L'année d'après, on change de politique, on fait surtout de l'écologie une variable d'ajustement comme d'habitude, et on tombe à 350 seulement rénovations d'écoles en 2025. Donc vous voyez, il n'y a pas de constance.
Il y a 157 millions de mètres carrés, c'est ça, qui doivent être rénovés pour les écoles,
c'est absolument ça. Donc il faut avoir un effort constant. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont supprimé en fait des subventions. On a bien vu que le fonds vert a été divisé par 4.
Oui, mais...
Et ils ont transformé ça en des prêts de la Caisse des dépôts. Et avec ces prêts de la Caisse des dépôts, c'est vrai qu'il y a eu de l'ordre de 5000 rénovations, mais on sait qu'au rythme actuel, il n'y aura que 30% des écoles qui seraient isolées sur le plan thermique en 2030.
En attendant,
on est très loin du compte.
D'accord, mais en attendant, parce que la rénovation thermique, ça coûte cher, ça prend du temps. En attendant, pourquoi on n'achète pas des climatiseurs dans les écoles, celles qui sont les plus surchauffées ? Pourquoi on n'est pas réactif et pragmatique ? En France, on a l'impression que quand il y a un problème, il faut fermer parce que finalement, il n'y a pas d'autre solution.
Moi, je dirais qu'il faut être déjà de la constance dans l'effort.
D'accord. Hein.
Mais
là, il y a des enfants qui ont fait des malaises aujourd'hui, notamment dans les écoles parisiennes. C'est inadmissible en 2026.
La climatisation, c'est pour nous ni un tabou, ni la réponse à tout. Bien sûr qu'il faut climatiser dans les endroits où il y a des personnes vulnérables. Vous l'avez dit, les écoles, les EHPAD, les hôpitaux.
35 degrés à l'hôpital.
C'est évidemment une priorité et ça doit être financé. Là aussi, il n'y a pas eu de préparation. Nous avons toujours été...
Ce sont les collectivités qui doivent payer pour les écoles.
C'est les collectivités, mais les collectivités ne pourront pas faire seules. Il faut que l'État les soutienne un peu, notamment au travers du fonds vert. Et le fonds vert est fait pour ça. Et on voit bien que c'est là où les crédits ont été coupés.
Nous sommes en direct de la mairie de Paris avec Lamia Alarage, première adjointe socialiste. Bonsoir, Madame Alarage. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, du côté de la mairie de Paris,
On a évoqué une hausse des décès des personnes seules ou des personnes âgées. Vous avez des éléments, des informations ou pas ?
À ce stade, nous ne les avons pas et par ailleurs, je laisserai les autorités sanitaires compétentes évoquer cela et le commenter en temps voulu. L'heure, pour l'instant, pour nous, est à une très grande mobilisation, une très grande vigilance. J'en profite pour rappeler les messages de prévention, notamment à destination des publics qui ne sont bien sûr les publics vulnérables que nous appelons régulièrement. Nous avons intensifié le rythme de nos maraudes, mais aussi dire à toutes celles et ceux qui pensent être épargnés du fait de leur âge ou de leur état physique par les effets de la canicule, que ce n'est pas le cas. Nous avons envoyé plus d'un million de SMS aux Parisiennes et aux Parisiens pour leur dire de se mettre au frais, de boire de l'eau, d'éviter les efforts physiques et de ne pas penser que leur âge les exempterait des conséquences de la canicule. Malheureusement, ce que nous constatons dans les hôpitaux, c'est que des personnes plutôt jeunes, plutôt bien portantes sur le papier, se retrouvent en situation de détresse du fait de la chaleur, soit parce qu'elles ont fait un effort, soit parce qu'elles n'ont pas été suffisamment vigilantes, ou simplement parce qu'il fait vraiment extrêmement chaud à certains endroits dans Paris. Donc prenez vraiment soin de vous, faites attention aux autres aussi. Nous avons tous une responsabilité collective et n'hésitez pas à appeler les services de la ville si vous constatez que votre voisine, votre voisin un peu âgé, seul, vous ne l'avez pas vu depuis plusieurs jours ou si vous constatez dans l'espace public, notamment les personnes à la rue qui sont particulièrement vulnérables en cette période. La rue tue l'hiver, mais elle tue aussi et tout autant, voire plus, l'été.
Vous êtes, la gauche est au pouvoir à Paris depuis plus de 20 ans, 25 ans. Pourquoi y a-t-il encore autant d'écoles surchauffées ? Pourquoi doit-on les fermer ? Pourquoi des enfants y font des malaises ? Pourquoi le personnel qui travaille dedans ne supporte plus la situation ? D'ailleurs, certains vont se mettre en grève. Est-ce que vous avez quand même pas le sentiment d'avoir échoué là sur ce domaine-là ?
Je trouve ça un peu fort de café de poser la question de cette façon-là. Je rappelle qu'il y a d'abord un gouvernement qui est en place et qui, pour le coup, aurait dû faire davantage en matière d'adaptation de nos
écoles, territoires
au changement climatique.
Les écoles, c'est géré par une collectivité comme Paris.
Attendez, laissez-moi juste vous répondre précisément. Du côté de la ville de Paris, nous avons, depuis maintenant plus de 10 ans, mis en place un changement de paradigme dans la réhabilitation thermique de nos écoles. C'est près d'un tiers de nos écoles qui disposent d'une cour oasis. Une cour oasis, c'est 5 degrés en moins dans la cour précisément.
Quand 40,
nous avons raccordé de plus en plus d'écoles au réseau fraîcheur de Paris, qui est un réseau qui permet de ventiler les écoles et de les rafraîchir grâce à l'utilisation de l'eau. Nous avons une trentaine là pour l'instant, une quarantaine.
Sur plus de 600.
Pardon ?
Il y a plus de 600 écoles, je crois,
sur
à Paris.
Sur plus de 600 écoles, en
donc
effet.
30 écoles
oui,
sur 10
bien
ans
sûr,
sur
ce
plus
ce sont
600.
Aussi des investissements.
Donc ça fait 2%, vous trouvez que c'est
non,
un bon
attendez,
bilan ?
Attendez, d'abord, la réhabilitation thermique des bâtiments... Attendez, là on parle du raccordement fraîcheur de Paris. Ce n'est pas la même chose que la réhabilitation thermique des bâtiments, qui, elle, concerne plutôt une centaine d'écoles. Ce sont... Je parle du raccordement au réseau fraîcheur de Paris. Excusez-moi, comme je suis à distance, ce n'est pas forcément simple, je ne suis pas avec vous sur le plateau. Donc, je parle du raccordement au réseau fraîcheur de Paris, qui est un réseau très récent, qui a moins de 5 ans, sur lequel nous investissons de façon colossale. Nous l'avons visité ce matin avec le maire de Paris. C'est une trentaine d'écoles qui sont d'ores et déjà raccordées, une quarantaine qui vont l'être, et nous allons intensifier le raccordement à fraîcheur de Paris. En attendant, sur la gestion de crise ponctuelle, parce qu'il ne s'agit pas d'être dogmatique, nous équipons les écoles de climat de façon
vous
à permettre aux écoles de bénéficier de salles rafraîchies.
Vous avez
oui, tout à fait, puisque
jours,
jusqu'à présent, nous ne souhaitions pas équiper nos établissements
après la
scolaires de climatiseurs.
Ils vont arriver après la canicule.
Non, qui sont en train d'être déployés. Oui, les livraisons ont commencé vendredi dernier.
La canicule se termine ce week-end.
C'est en cours jusqu'à la fin de l'été. Elle ne se termine pas ce week-end selon les informations dont nous disposons. A priori, nous devrions aller vers un épisode caniculaire qui devrait nous emmener jusqu'à la moitié du mois de juillet, a priori. Et quoi qu'il en soit, ce sont des outils qui serviront pour les prochaines années. Écoutez, très bien, pas de souci. En tout cas, nous pensons qu'il serait possible que cet épisode caniculaire, qui, s'il est conjoncturel aujourd'hui, va être amené à se répéter de façon régulière tous les ans. Soit on est là pour faire le procès de la ville de Paris, soit à un moment, on considère que d'abord,
on fait pas
c'est un épisode
caniculaire
national.
Pourquoi nos enfants ne sont pas protégés à Paris, c'est tout.
Mais je suis en train de vous expliquer, mais vous me coupez la parole en permanence. Et voilà. Donc, laissez-moi aller au bout de mon propos si vous le voulez bien. Il y a plusieurs volets d'intervention. Il y a le bâtimentaire qui nécessite des travaux lourds. On parle de plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros pour réhabiliter les écoles. Toutes ne peuvent pas l'être pour tout un tas de raisons, patrimoniaux, bâtimentaires. Donc, nous travaillons un plan. Et par ailleurs, ça a commencé depuis déjà plus de 10 ans. Nous sommes la première collectivité européenne à avoir fait voter le plan local d'urbanisme bioclimatique, plan local qui a été par ailleurs extrêmement critiqué justement par l'ambition qu'il portait sur la question de la réhabilitation thermique du bâtiment et l'adaptation de nos villes. Nous avons créé des cours Oasis qui aujourd'hui concernent un tiers des écoles parisiennes et nous allons par ailleurs mettre en place des mesures ponctuelles, notamment l'installation des ombrières, l'installation de vitres réfléchissantes, des mesures qui permettent de faire de l'économie d'énergie en interne et donc d'essayer de réduire la température. Sur la question de la fermeture des écoles, nous avons souhaité maintenir l'ouverture et des écoles et des crèches parce que la réalité d'un grand nombre d'enfants et de familles à Paris, qui est une zone urbaine de forte densité, c'est qu'il fait parfois tout aussi chaud, voire plus, à la maison que dans nos écoles. Donc nous avons privilégié une approche qui effectivement a consisté à commander des climatiseurs, de les livrer au maximum des capacités par ailleurs de commande et de livraison progressivement dans nos différentes écoles pour permettre aux enfants d'avoir des salles rafraîchies. C'est pas une solution miracle, nous en sommes tout à fait conscients. Ce n'est pas non plus incantatoire, c'est une réalité que nous mettons en œuvre et nous appelons à une réflexion globale, une mobilisation globale sur cette question de la réhabilitation thermique de nos bâtiments. Le changement climatique est une réalité. Collectivité de gauche que nous sommes depuis maintenant 25 ans, nous alertons les autorités publiques sur la réalité du changement climatique et nous avons mis en place des plans extrêmement ambitieux. Nous sommes la collectivité qui a le plus investi dans la rénovation thermique du parc social parisien. C'est près de 40% du parc social qui est aujourd'hui réhabilité.
Merci Madame Alarage, première adjointe socialiste à la mairie de Paris et duplex assuré par Anaëlle Leteneux. C'est le système d'alerte qui est sous tension aujourd'hui, le système hospitalier, qui est en alerte et qui est sous tension. On va retrouver Julie Roseur qui est à l'hôpital Cochin de Paris. Illustration dans cet hôpital, Julie.
Oui, tout à fait. La situation dans les hôpitaux en France est très tendue et ici, l'hôpital Cochin ne fait pas exception. Le personnel m'expliquait tout à l'heure qu'il manquait d'effectifs, de personnel donc, de moyens aussi également. On m'expliquait, par exemple, une déléguée syndicale m'expliquait que dans l'unité gériatrique de Broca, à quelques centaines de mètres d'ici, les chambres des patients, donc de patients âgés, n'étaient pas climatisées. Le personnel devait donc accrocher des bouteilles d'eau glacées devant des ventilateurs pour tenter de réduire la température à l'intérieur des chambres. Les climatiseurs de l'hôpital aussi tombent régulièrement en panne. Ça menace d'exploser. Je suis très inquiète. Voilà ce que me confiait une représentante syndicale tout à l'heure. Une inquiétude aussi due à la marche des fiertés qui aura lieu samedi prochain dans les rues parisiennes. Elle passera non loin d'ici, non loin de l'hôpital Cochin. On attend 40 degrés dans les rues de Paris samedi prochain. Donc ici à l'hôpital, on redoute un afflux de patients supplémentaires à cette occasion.
Julie Roseur avec Aristide Sadna devant l'hôpital Cochin à Paris.
On va faire un point sur les prévisions météo puisque tout le monde donne ses prévisions météo, mais nous on a les bonnes, on va vous les donner dans un instant. Un mot à Marc Totti, je voyais réagir parce que on a du mal à comprendre dans un pays quand même qui met beaucoup d'argent public sur la table, qui a connu une très grande canicule il y a 2003, d'autres depuis. On semble totalement impréparé à tout ça.
Je pense que c'est un vrai scandale. Ça montre l'état de déclassement de la France. Rendez-vous compte, nous sommes numéro un du monde des dépenses publiques. Il n'y a pas un pays dans le monde où le poids des dépenses publiques par rapport à notre PIB est plus élevé. 57,5%, chiffre qui vient de sortir d'Eurostat. Ce matin encore, on a eu les chiffres de la dette publique qui a atteint donc 3538 milliards, un nouveau record historique. Depuis 2020, ça a augmenté de quasiment 1200 milliards. Sur la même période, le PIB a augmenté de seulement 800 milliards. Il y a 500 milliards d'euros qui ont disparu. Donc les moyens sont là. Nous sommes également numéro un du monde, ne l'oublie pas, des impôts. Donc où va l'argent? C'est ça la grande interrogation. C'est que, vous l'avez évoqué, on a eu 2003, il y a déjà quand même donc pas mal d'années. On sait très bien qu'il y a ce risque qui est là. Alors, c'est vrai qu'on nous dit maintenant, bah tiens, finalement, la climatisation, c'est pas mal. Bah oui, on le savait déjà. Aujourd'hui, vous avez rendez-vous compte, en France, 7% des écoles seulement qui sont climatisées, contre quasiment 100% aux États-Unis ou au Japon. Et ce qui est fou, c'est que, parce qu'on parle de température caniculaire, c'est vrai, mais il y a beaucoup de pays, entre guillemets, qu'on appelle émergents, qui vivent très bien, finalement, avec tout cela qui arrive. Parce que justement, ils ont des infrastructures, ils ont innové, ils ont investi, justement, gouvernement pour permettre de réconcilier et l'économie et l'écologie. Et donc, c'est ça qui colle pas. C'est qu'on a des moyens énormes et malheureusement, il n'y a pas ensuite de résultats. Et alors, évidemment, bah, comme pour tout, on dé... une fois que le mal est là, eh bien, on découvre, on dit, voilà, il faut réagir, il faut acheter des ventilos ou des climatiseurs, etc. Et or, il y en a plus beaucoup. Hein, on est en rupture de stock. Donc, c'est ce manque, cette impréparation, ce manque d'anticipation, si vous voulez. Puis, un élément positif également qu'on ne faut pas oublier, c'est également l'aspect innovation. Parce qu'on peut aujourd'hui développer des climatiseurs qui consomment moins d'énergie que les anciens. Ça, on ne le fait pas. Et c'est aujourd'hui les Chinois qui le font. Rendez-vous compte, ça, c'est incroyable.
Donc, il y a une filière française qu'on aurait pu développer.
Mais bien entendu. Donc, c'est ça aujourd'hui qui est très inquiétant, c'est que on a encore. J'ai fait un calcul simple. Hein. Là, en quelques jours de canicule, ça nous a coûté à peu près 6 milliards d'euros de moins de PIB. Aujourd'hui, par exemple,
pourquoi
c'est
les sols. Parce que la productivité baisse.
La productivité baisse. Il y a moins d'activité. Dans le BTP, évidemment, il y a des chantiers qui s'arrêtent. Regardez, c'est le jour des soldes depuis hier. Ben, les Français ont du mal, évidemment, à aller se déplacer. C'est logique. Donc, tout ça fait qu'on a une baisse de l'investissement, de la consommation. Le chômage technique qui augmente.
Hein,
le chômage...
Les restaurateurs se plaignent. Hein.
Exactement. Donc, ça veut dire, ça va également aggraver encore notre déficit. En fait, il y a des impacts énormes sur la climatisation. Ça peut coûter entre 5 à 10 milliards d'équiper aujourd'hui nos écoles, par exemple. Vous vous rendez compte, on a une dépense publique chaque année d'environ 1730 milliards d'euros. Donc, même si on prend 10 milliards pour équiper en climatisation, c'est 0,6% du total. Donc, ça veut dire qu'on a des moyens, mais c'est mal alloué. Parce que quand on voit ce qui augmente le plus dans les dépenses publiques ces dernières années, c'est même pas les dépenses sociales, ce sont les dépenses de fonctionnement qui ont augmenté de 24% depuis 2021. C'est-à-dire 105 milliards d'euros d'augmentation. Donc là aussi, on se dit, ben, où va l'argent? C'est-à-dire que on a des dépenses de fonctionnement, encore une fois, qui explosent, et les services publics qui, malheureusement, ne suivent pas. Donc c'est ça qui, aujourd'hui, est très inquiétant et qui, malheureusement, n'est pas de bon augure, sachant que d'autres pays, justement, ont réussi à affronter ces dangers parce qu'ils ont anticipé.
Précision,
Marie-Chantée. Un mot rapide sur ce procès en manque d'anticipation du gouvernement, en impréparation, comme vous le disiez. À l'instant, le président écrit sur ses réseaux sociaux, Emmanuel Macron, je ne sais pas s'il nous écoute, mais en tout cas, c'est une musique depuis maintenant le début de cette canicule. Il le dit, chacun le mesure, nous devons aller plus vite et plus loin pour nous adapter aux épisodes climatiques que nous traversons. État, collectivités, citoyens, accélérer l'affaire de tous. Parce que ce qui est en jeu aussi, et Madame El Haraj de la mairie de Paris le soulignait, sur l'équipement, le sous-équipement des écoles aujourd'hui face à ces épisodes de chaleur, elle renvoie la balle à l'État. Mais est-ce que le gouvernement...
C'est une compétence
ministre,
exclusive
des collectivités, et en l'occurrence de la mairie de Paris. Donc effectivement, ce qui se joue là aussi, c'est des résultats
chacun
de la,
se renvoie un peu la
décentralisation, et chacun aujourd'hui se renvoie la balle. Maintenant, il va s'agir de peut-être se mettre tous autour d'une table et de savoir qui doit flécher ses investissements et ses améliorations dans nos bâtis publics.
Vous voulez réagir, madame, ça, c'est ce qui était dit.
Oui, un mot quand même pour dire où va l'argent. D'abord, où va l'argent? Visiblement, dans les baisses d'impôts, d'abord, parce qu'il y a eu 62 milliards de baisses d'impôts.
Non, c'était pendant le coronavirus.
Et si on n'avait pas fait ces 62 milliards de baisses d'impôts, je pense que nos finances publiques et notre préparation seraient bien meilleures aujourd'hui. Ensuite, on dit les collectivités doivent faire, je dis que chacun doit faire sa part. Et vous savez combien l'État a dépensé en subventions pour rénover les écoles sur le plan thermique? Eh bien, 80 millions d'euros l'année dernière, en 2025. C'est ridicule. Pour 55 000 établissements scolaires, on peut pas dire que l'État est à la hauteur et qu'il aide les collectivités. Chacun doit faire sa part, les collectivités doivent faire leur part, mais elles ne peuvent pas faire seules avec un État qui ne les aide pas et qui même contraint leur
financement. Il y a des villes riches comme Paris... Je comprends qu'il faut aider effectivement les villes, les communes les plus pauvres, endettées, celles qui sont en difficulté, mais une ville comme Paris.
Quand on dit les villes riches comme Paris.
Bah, Paris est une ville riche.
Il y a énormément de.
Bah, le budget de Paris.
De dépenses
par
aussi
rapport à...
par ailleurs. Donc, il y a aussi.
Bah, c'est peut-être des choix aussi. C'est peut-être des choix. Il faut
c'est
peut-être moins,
choix,
moins dépenser.
C'est un plan d'adaptation.
Et prioriser.
Mais moi, je voudrais revenir à l'État. Il y a un an, on a publié un rapport pour dire vous avez fait le PNAC, le Plan National d'Adaptation. Il n'y a zéro financement supplémentaire qui sont associé à ce plan d'adaptation. C'était tout prévu par redéploiement des moyens existants. Eh bien non, ça ne marche pas. À un moment donné, il faut mettre de l'argent sur la table. Il faut mettre de l'argent sur la table.
L'argent est là, il faut le réallouer. Parce que quand on voit qu'il y a 575 milliards d'euros qui ont disparu depuis 2021 du circuit économique, c'est quand même assez incroyable.
Moi,
donc là, oui, ça dépasse largement les 60 milliards d'aides aux entreprises, encore une fois. Mais c'est ça qui est inquiétant, c'est que l'argent est là. Simplement, il est mal alloué. Donc il faut effectivement
Prioriser.
Il faut un grand soir de la dépense publique. politique, un grand soir fiscal, repenser complètement. Parce que là, ce qu'on fait, on essaie de colmater les brèches dès qu'il y a un problème, etc. Et on voit bien que ça, la dernière fois, c'était avec le pétrole. Maintenant, c'est aujourd'hui, on le voit sur la canicule, etc. Donc, à chaque fois, on reporte le problème. Alors que, bien entendu, il faut aujourd'hui repenser complètement le fonctionnement de notre économie et notamment de la sphère publique.
Il faut quand même regarder la carte météo du jour, parce qu'on a annoncé la journée la plus chaude aujourd'hui. Alors, c'est ce que vous allez faire pour nous, justement, Anthony Ferry. Où en est-on? Est-ce qu'on a encore battu des records?
Alors, on a effectivement battu des records. Ce jour ne sera pas la journée la plus chaude de l'histoire. Ça restera vraiment celle de mercredi. Mais toutefois, quelques chiffres importants à vous donner. Par exemple, on a frôlé les 45 degrés à l'ombre aujourd'hui dans l'Indre. On a dépassé évidemment largement les 40 degrés partout. 41 à Bordeaux, 42 dans le Cher. Enfin bref. La semaine dernière, d'ailleurs c'était sur le plateau de Marie Chantrey, nous parlions d'un événement grave qui arrivait. Nous sommes toujours dans cet événement grave, il faut vraiment le dire, puisque le pire n'est pas passé. Il y a effectivement ces 72 départements en vigilance, ils seront un petit peu moins ce soir, parce que ceux de la façade ouest vont sortir.
C'est-à-dire qu'il y a quand même une amélioration qui arrive par l'ouest.
Il y a une amélioration, mais vraiment ce que Météo France nous a indiqué, c'est que certes, cette amélioration arrive, mais les Français ne doivent pas imaginer que c'est fini. Le pire est là pour ceux qui habitent dans l'est du pays, où demain matin, nous aurons déjà, voilà, le dôme de chaleur se déplace, demain matin, nous aurons déjà sur toute la façade est du pays des températures qui frôleront les 35 degrés et on ira jusqu'à 40, 42 localement, au moment même où effectivement les collégiens, par exemple, passeront le brevet. Donc, le pire est devant vous si vous habitez dans l'est du pays. Je vous donne simplement un point de sortie. Eh bien, ce sera effectivement dimanche où là, nous pourrons vraiment respirer davantage. Les trois quarts du territoire seront sortis de la canicule. Mais attention, ça ne veut pas dire que nous en aurons fini avec les chaleurs intenses. On sera toujours dans un épisode estival avec 3 à 4 degrés au-dessus des normales de saison. Toutefois, je m'inscris en porte-à-faux avec ce qui a été dit tout à l'heure. Météo France, pour l'instant, ne prévoit pas de température caniculaire extrême comme celle que nous avons connue jusque début juillet.
C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on ne peut pas aller jusqu'au 14 juillet.
Non, les modèles.
Ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver.
Ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver, mais pour l'instant, rien ne nous dit que l'on va vers cela. Donc, restons tout de même optimistes.
Mais attention, cet épisode caniculaire n'est pas terminé.
C'est vraiment le message qu'il faut retenir ce soir. Alors, le pire est devant vous si vous habitez dans l'est du pays.
Nous sommes avec Agnès Ricaribon, qui est présidente de la Société française de médecine d'urgence. Bonsoir Agnès Ricaribon, merci de prendre quelques instants pour nous. Est-ce que vous pensez que ça va être compliqué dans les jours, dans les heures et les jours à venir aux urgences?
Alors oui, il y a eu un point de bascule ce matin. Depuis plusieurs jours, on a une augmentation de 30 à 50% des appels au SAMU et c'est non seulement attendu, mais c'est même souhaité et on est en capacité de répondre. La crise sanitaire, ça fait partie du métier des urgentistes. On sait s'adapter à cette augmentation d'appels et c'est important que la population appelle le 15 parce que ça permet de répondre efficacement aux besoins de soins. Les graves sont pris en charge très vite par les ambulances du SAMU et vont directement en réanimation, et ceux qui n'ont pas besoin des urgences peuvent être orientés vers la médecine de ville, ce qui permet de réserver les urgences aux patients qui en ont vraiment besoin. Donc jusqu'à ce matin, on n'avait pas trop d'augmentation de patients dans les services d'urgence. Or là, étant donné que la canicule se prolonge, on commence à avoir les décompensations de pathologies chroniques chez les personnes les plus fragiles, mais on a aussi des jeunes. On a des jeunes déshydratés, on a des pathologies psychiatriques, on a des épileptiques habituellement équilibrés qui convulsent. Et donc vraiment, tous les publics sont touchés et on insiste vraiment, c'est la prévention qui marche le mieux. Et si il y a des symptômes, il faut appeler le 15 sans tarder avant qu'il y ait une dégradation et
alors,
des risques.
Quels sont ces symptômes? Justement, quels sont les symptômes à surveiller?
Alors, ça commence par des maux de tête, par une fatigue intense, par des courbatures, par l'impossibilité de transpirer. Ça, c'est un signe de déshydratation. Les crampes sont vraiment classiques. Les maux de tête, des nausées, vomissements, sensations de vertige et malaise.
Mais vous dites, on s'attend donc à une fréquentation en forte augmentation dans les hôpitaux. Par exemple, ce week-end, les urgences, donc il y a peut-être un conseil à donner, d'éviter d'aller encombrer les urgences, si on peut faire autrement.
Alors, c'est appeler le 15 parce que nous, on orientera les patients vers les bonnes filières, vers les médecins traitants ou par des conseils à domicile. Mais il y en a qui ont vraiment besoin des urgences. Et ceux qui ont vraiment besoin des urgences, faut surtout pas qu'ils soient restreints. Faut pas qu'ils aient peur d'aller aux urgences parce qu'on est capable de s'adapter là aussi à l'augmentation des patients.
On attend quand même longtemps aux urgences. En temps normal, on attend quand même très longtemps aux urgences.
Mais en fait, on attend longtemps aux urgences, souvent parce qu'on n'arrive pas à faire sortir les patients vers l'hospitalisation. Et c'est pour ça qu'on a demandé aussi qu'il y ait un plan de canicule. Et c'est le plan Orsan niveau 3. On espère que ça va aider à avoir des lits parce que nous, on est capable de s'adapter à une augmentation de patients qui arrivent aux urgences. Mais quand toutes nos salles d'examen sont occupées par des patients qui pourraient sortir des urgences parce qu'ils ont été pris en charge, mais qu'on ne peut pas les faire sortir parce qu'on n'a pas les lits, à ce moment-là, ça nous empêche d'accueillir les nouveaux patients.
Merci. Merci Madame Ricaribon, merci de ces précisions. Je rappelle, vous êtes à la tête de la Société française de médecine d'urgence, justement. Vous aviez un exemple, Marie Chantre, un exemple vous concernant. Personnel. Qui...
Oui, ben j'ai connu hier soir, je raconte rarement ma vie privée, mais un coup de chaud. C'était 1h du matin, je précise aux esprits malins, je n'avais pas bu une goutte d'alcool, et un coup de chaud. Vraiment, j'ai été pris de vomissements. J'avais le corps brûlant, littéralement.
Alors, il faisait trop chaud chez vous, en fait.
Il faisait trop chaud, en effet. J'ai une bouilloire thermique à la maison. On arrive à rafraîchir la chambre, mais pas le reste de l'appartement.
Vous aviez combien chez vous en température, vous
là, savez on est à 34 degrés. 34 degrés avec une chambre qu'on arrive à climatiser parce qu'on a une clim portative. Et j'ai été pris d'un coup de chaud, littéralement. Et donc, mon compagnon m'a mis des glaçons sur le corps, enroulé dans une serviette pour me rafraîchir. À aucun moment, je me suis dit, j'appelle le 15 parce que, bon, j'ai réussi à me réguler. Mais c'est vrai que quand j'entends cette médecin de savoir à faire le tri entre vos symptômes, ce que vous faites directement, moi, j'avais pas eu envie de forcément peut-être surcharger, encore une fois, des médecins qui sont surchargés d'appels.